j'ai appris que Sarkozy avait envoyé Johnny Hallyday aux obsèques de Pavarotti. Se disant que c'est le meilleur talent qu'on ait en France.
Je tiens à féliciter personnellement M. Mermet pour la remarquable émission qu'il a consacrée ce mardi 9 octobre au-dessous de l'affaire EADS. Je félicite également le journaliste François Ruffin pour l'enquête remarquable qu'il a réalisée sur ce sujet. Certes, elle ne m'a rien appris, car, comme vous vous en doutez, et ce, malgré mes déclarations publiées ce jour par le quotidien Le Parisien, la vérité, je la connais, puisque c'est moi qui ai orchestré toute cette combine avec mes amis Lagardère, Forgeat, Dassault, Breton et tous ceux que vous avez cités. Mais je dois reconnaître que je suis épaté de constater qu'un journaliste soit capable de mettre à plat tous les tenants et les aboutissants de cette affaire, de décortiquer en quelque sorte les arcanes du système libéral, et que personne ne l'écoute, à part M. Mermet et les auditeurs de là-bas si j'y suis, qui ne représentent cependant aucun danger pour moi et mes complices, tant que les gens préféreront se laisser endormir par les salades qu'on leur raconte, aidés en cela que nous sommes, par les journalistes complaisants, faut dire qu'on s'en occupe bien, de la presse écrite et audiovisuelle. Je peux même me permettre de venir vous raconter ça sur le répondeur, tant je suis certain que personne ne va broncher. C'est pourquoi je me permets de proposer à M. Ruffin de mettre son immense talent à mon service. C'est dommage qu'une aussi grande intelligence ne soit pas rémunérée à sa juste valeur.
J'ai une annonce des renseignements généreux que j'ai vérifié. Donc, pour combattre les franchises qui sont prévues dans la sécurité sociale, une manifestation importante est prévue, c'est le samedi 13 octobre à 14h, samedi 13 octobre à 14h. Le départ est rue du départ, justement, et l'arrivée, c'est l'esplanade des Invalides. Donc tous ceux qui veulent défendre la sécurité sociale sont aimablement conviés. C'est une marche de santé. Salut, c'était Jean-Pierre.
Lagardère, nous ne sommes pas venus à toi, tu es venu à nous et tu as piqué tous nos sous. Orly, nous t'aurons.
Oui, alors bonjour, je m'appelle Chantal, j'habite Lokenoé dans un tout petit village au fin fond du Finistère, là. Alors je m'installais pour faire aujourd'hui 2 heures de repassage, comme je fais d'habitude toutes les semaines, et j'allume donc ma radio, et je tombe sur votre émission, sur l'explication du dossier EADS. Et je me suis dit que j'allais me barber à écouter ça, mais bon, comme je n'aime pas changer de station, je n'aime pas entendre des émissions coupées par des pubs, je reste sur France Inter et j'écoute votre émission. Et au bout de 10 minutes, hein, j'ai été heureusement, agréablement surprise, j'ai trouvé ça passionnant, l'explication que François Ruffin faisait sur ce dossier EADS. Et tout en écoutant votre émission, je pensais à ma fille qui est en terminale ES, c'est-à-dire une section économique, et je me disais que c'était vraiment dommage qu'elle n'entende pas votre émission. Parce que franchement, je trouve qu'une heure d'écoute de là-bas si j'y suis vaut largement un cours magistral d'économie. Et ce serait vraiment fantastique que de temps en temps, au lieu de faire un cours magistral d'économie, les profs allument tout simplement la radio à l'heure de votre émission et fassent écouter votre émission à leurs élèves. Ça aurait au moins le mérite de leur de leur faire développer leur sens critique et ce serait tellement plus porteur que d'écouter bien sagement le prof sans rien dire. Et ce qui me ferait encore plus plaisir, c'est que la prof d'économie de ma fille du lycée de Landivisio là entende ce petit message et qu'elle en tienne compte. Voilà, je suis ravie d'avoir entendu votre émission. Bonne fin de journée, au revoir.
Merci, merci, merci. On est en train de boire du petit lait parce que c'est exactement ce que nous voulions avec cette émission, c'est-à-dire apprendre quelque chose, vous apprendre quelque chose, et spécialement, les jeunes qui sont en terminale, les mamans qui repassent l'après-midi. On n'était pas du tout sûr que ça allait vous intéresser. On a eu énormément de messages suite à l'entretien hier avec François Ruffin, notre confrère et ami de la base J'y suis, qui a fait un travail, c'est vrai, en longueur et en profondeur sur non seulement le scandale des initiés dans l'affaire EA2S, mais aussi comment cette entreprise a été peu à peu vampirisée par l'économie financiarisée. Vous pouvez réécouter cette émission sur la-bas.org, la-bas.org, et lire aussi l'article que François Ruffin a écrit sur cette question. De cette façon, vous pouvez voilà, prendre votre temps pour lire et imprimer, si vous voulez, gratuitement ce travail. Donc, merci à tous. Aujourd'hui, vous savez que c'est l'ouverture de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration. Vous le savez ou vous le savez pas, parce que cette ouverture se fait très, très discrètement, alors que c'était un projet auquel beaucoup de monde était attaché, pas seulement des politiques, mais aussi des chercheurs qui ont travaillé depuis très longtemps sur cette Cité nationale de l'histoire de l'immigration qui vise à donner aux Françaises et aux Français une autre image de l'immigration que celle qui est donnée actuellement. L'immigration a profité et continue de profiter à la communauté nationale. On va retrouver aujourd'hui Gérard Noiriel, qui est celui qui, enfin, l'un de ces chercheurs qui s'est opposé à la création du ministère de l'immigration et de l'identité nationale. 8 sur les 12 scientifiques, et experts, historiens, démographes, etc., qui sont impliqués dans le conseil scientifique pour la création de cette Cité nationale de l'histoire de l'immigration, 8 sur 12, vous en souvenez peut-être, avaient démissionné le 8 mai dernier lors de la création de ce ministère pour protester contre l'idée d'identité nationale, dans qu'il y a un ministère spécialement prévu pour cette identité nationale, tant ils considèrent que cet intitulé identité nationale ne peut que conforter les préjugés négatifs à l'égard des étrangers. Alors, on va retrouver Gérard Noiriel, qu'on avait rencontré au mois de juin, pour revenir sur les explications, là aussi, en longueur et en profondeur, sur ce qui oppose ces chercheurs à l'idée qui est derrière ce ministère. Évidemment que on comprend que les stratégies politiques ne sont pas toujours compatibles avec les soucis des chercheurs, mais on va voir que là, le hiatus est quand même assez profond. La preuve, encore une fois, la discrétion sur l'ouverture d'un tel musée. Je crois qu'on est parmi les seuls à disposer d'un centre comme celui-là en Europe. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Bastille. J'y suis au 01 56 40 37 37, autour évidemment de l'affaire EADS et de Lagardère. Pour les nuls,
D'abord, bravo d'avoir rappelé que c'était Jospin et Guesso qui avaient privatisé Airbus. C'est quand même important pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Mais la deuxième autre chose qui m'a choqué, c'est quand François Ruffin nous explique que l'Europe se serait libéralisée, comme si dès le départ les institutions européennes n'avaient pas été au service des intérêts des capitalistes. Ils l'ont été depuis le traité de Rome. Et je suis prête à expliquer pourquoi je dis ça. Troisième chose. La présentation de Force ouvrière dans votre truc, je la trouve pas très correcte. Je rappelle qu'au lendemain de la révélation du scandale des délits d'initiés, on a entendu à la radio que le syndicat Force ouvrière de Airbus demandait l'arrêt du plan Power 8. Ça n'a pas ensuite été répété dans les autres actualités, mais et pour cause. Et je vous rappelle aussi que moi je suis militante CGT et je peux vous dire que dans plein d'endroits la CGT fait aussi de la cogestion, malheureusement, pour nous salariés. Et aujourd'hui les positions de la CGT sur la sécurité sociale professionnelle ou le statut du salarié sont loin d'être celles d'un syndicat de lutte. Et c'est pour ça que nous sommes nombreux de militants de la CGT à nous battre pour qu'elle reste un syndicat de classe, justement. Donc, et sur certaines choses, force ouvrière aujourd'hui a des positions plus correctes que la direction de la CGT. Alors bon, moi je suis pas d'accord pour qu'on balance comme ça. Voilà.
Monsieur Mermet, je voulais vous remercier pour vos émissions de grande qualité et pour le choix de vos intervenants. Même si je ne suis pas toujours d'accord avec vous, c'est toujours une ouverture sur le monde avec un regard différent qui suscite une réflexion. C'est un bon complément pour moi de certaines émissions sur Arte. J'arrive de moins en moins à comprendre ce pauvre monde, ou peut-être j'y arrive trop bien, et la cupidité doublée de manque de respect, d'honneur et de civisme de certains de nos politiques et financiers matières. Voilà, je suis infirmière dans un centre de santé, et la misère, eh bien, je la côtoie tous les jours. Quel poids faudra-t-il supporter pour que la révolte vienne? Bon courage et merci à toute l'équipe.
Oui, bonjour Daniel. En écoutant les éclaircissements de la claire ADS que tu donnes avec François Ruffin aujourd'hui, je me demande comment les salariés d'Airbus peuvent aujourd'hui rester les bras croisés. Et surtout, leurs syndicats majoritaires, qui sont théoriquement là pour les défendre, eux et le bassin d'emploi de cette industrie qui se meurt. Leur sentiment d'appartenance à la famille Airbus devrait leur donner plus de foi pour lutter pour eux et les emplois des jeunes de leurs régions respectives. Donc je me demande bien, Daniel, pourquoi donc il y a cette rébellion molle chez l'avionneur? Voilà, c'était Céline de Toulouse. Salut.
Bonjour Daniel, je viens d'entendre l'émission avec François Ruffin, c'était sensationnel. Et je me demande si on est peut-être très cons, nous les Français, peut-être qu'on est très cons, peut-être qu'on est aussi, qu'on aime ça, se faire niquer, peut-être qu'on jouit, peut-être aussi qu'on est les deux, qu'on est cons et qu'on aime aussi se faire niquer, peut-être, c'est comme ça. C'est Dominique de Cologne.
Avec ma gueule de métèque.
Je continuerai de parler de l'identité nationale parce que je crois que l'identité nationale pour un peuple, c'est quelque chose d'essentiel. Et parce que je crois que la France traverse une crise d'identité, que cette crise est grave, à nous contester le droit de parler de notre identité. Nous créons les conditions d'une crise identitaire.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Gérard Noiriel, les révoltés du « et ».
Flight number 2, arriving from New York.
Je veux que l'immigration soit maîtrisée, que notre pays fixe chaque année le nombre des étrangers qu'il peut accueillir dans des conditions qui respectent la dignité de la personne. La France ne peut pas être le seul pays au monde qui ne puisse décider librement de qui y est le bienvenu et de qui n'y est pas souhaité. Je souhaite qu'on ne puisse pas s'installer durablement en France si on ne se donne pas la peine de parler et d'écrire le français. Je souhaite qu'on ne puisse pas vivre en France si on ne respecte pas notre culture et nos valeurs. Ceux qui veulent soumettre leurs femmes, ceux qui veulent pratiquer la polygamie, l'excision, le mariage forcé, ceux qui veulent imposer à leurs sœurs la loi des grands frères, ceux qui ne veulent pas que leurs femmes s'habillent comme elles le souhaitent, je le dis comme je le pense, ceux-là ne sont pas les bienvenus sur le territoire de la République française. Ceux qui ne l'ont pas compris ne sont pas acceptés et acceptables sur le territoire de la République française. Nous n'avons pas à transiger avec cela.
Stigmatisation de l'immigré, instrumentalisation de l'immigration à des fins électorales, c'est une vieille coutume, quelque chose que des scientifiques, notamment, observent depuis des années à travers leurs travaux. Et ces travaux aboutissent à la création, donc à l'ouverture aujourd'hui même de cette cité nationale de l'histoire de l'immigration à Paris, à la Porte Dorée, au palais de la Porte Dorée, là qui était précédemment le musée des colonies. Vendredi, France Inter sera présent dans sur ce sujet et en ces lieux. Et vous l'avez compris, l'ouverture de cette Cité nationale de l'histoire se fait dans la discrétion, en tous les cas du côté du gouvernement. Pourtant, c'était un projet ancien, voulu notamment par ses chercheurs, finalement voulu par le président Jacques Chirac, et puis le Premier ministre Raffarin s'en est mêlé, et puis tout ça a été piloté par Jacques Toubon, et l'ensemble du projet a fait consensus. Oui, consensus, ça peut arriver. Le but étant de changer le regard sur l'immigration, changer le regard des contemporains sur leur société, en rappelant comment, depuis plusieurs siècles, deux siècles surtout, les étrangers venus par vagues successives ont contribué à développer, transformer et enrichir la France. On voit que ces mots ne coïncident pas avec ceux que l'on vient d'entendre de la bouche de celui qui est devenu le président de la République. Les étrangers étant ceux qui excisent, qui n'apprennent pas le français, qui maltraitent leurs femmes et leurs sœurs, c'est pas du tout le même regard. Or, ce qui a froissé et contrarié ces chercheurs, je parle de ceux qui sont impliqués qui se sont impliqués depuis longtemps dans la création de ce Centre National de l'Immigration, ce qui les a froissés et rendus furieux, c'est la création de ce ministère de l'immigration et de l'identité nationale. Pour eux, l'identité nationale a toujours conforter les préjugés négatifs à l'égard des immigrés. L'expression même d'identité nationale a été pas popularisée par Jean-Marie Le Pen. Gérard Noiriel s'en expliquera dans un livre qui va bientôt qui sortira le 26 octobre. À quoi sert l'identité nationale? Lui et d'autres chercheurs se sont opposés à la création d'un tel musée, et il va nous dire pourquoi. Car l'identité nationale ne se définit pas comme un gène, ce n'est pas un don du sang, ni même du sol. L'identité nationale est le produit d'une histoire de lutte, une histoire qui appartient à tout le monde. C'est une histoire qui est en mouvement, qui est en renouvellement, et qui ne peut se décider du haut, disons, pour simplifier. Alors, on se souvient comment le candidat Sarkozy, en avril dernier, expliquait, je cite, que ce ministère de l'immigration et de l'identité nationale, je cite, permettra de récupérer le vote Front National. Et d'ailleurs, Jean-Marie Le Pen avait vu là, je cite, une opération de racolage sur les terres du Front National. Le but, on le comprend, pourquoi pas, après tout, siphonner les voix du Front National et ramener ces Français votants pour le Front National dans le giron républicain, dans le jeu républicain classique, on va dire. Pourquoi pas, sauf que les concessions et les gages qui sont donnés à cet électorat sont inquiétants et prêtent évidemment à débat, sinon à combat. Voilà pourquoi nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Là-bas, si j'y suis, avec Gérard Noiriel, à quoi sert l'identité nationale ?
Mon héritage a fait le fond et la forme de mon message, à tapisser et décorer mes rêves et mes mirages, à motiver et inspirer mes songes et mes fantasmes, a combattu les insultes, les moqueries et les sarcasmes. Il influence mes choix, mes décisions, il conditionne mes réactions, mes émotions, il aliène, il étouffe, il emprisonne, il rassure, il réconforte, il passionne. Mon héritage, il t'offre, il te donne, il partage, il soulage, il console, il encourage. Mon héritage, il vient de loin, il vient d'ici, il vient de là-bas, il vient des mines de charbon, des dunes du Sahara. Mon héritage,
m'a donné la voix, tout le monde a honte de moi. Alors je cache ma zoléra derrière cette gel là-bas.
Je me laisse pousser le pot pour faire le maboule à Kaboul. Sous un soleil de plomb, mes poumons crachent du charbon.
Je m'amiante les heures pendant que les quatre jeudis sont à ma fenêtre. Le Père Noël,
le Père Fouettard,
le Saint-Nicolas,
le Saint-Benoît sous un gâteau de blanc de chez Vincent.
Sans mentir,
il ne resterait pas grand chose lorsqu'ils ont fini leur repas.
Même pas des miettes que des bouteilles vides, c'est tout ce que l'on ramène à la consigne.
Voilà pourquoi je m'arrête pas le faire un signe.
Car j'ai pas fini mon labeur, labourer la terre avec les mains, cultiver les sillons et finir de faire cuire le pain.
Pour les enfants,
cette couleur de peau, ces paroles de ch'timi, bigoune, aux accents de prolo. J'ai pas hérité de château, de chauffeur et de limousine, que la sueur de nos vieux qui travaillaient à l'usine. Le mien c'était le marchand de fruits et légumes avec le bleu tout crade. Jamais malade, l'hiver dehors par moins 10 degrés, les pieds gelés, les marrons chauds avec le sourire s'il vous plaît. Les manoirs, celui qui a pas grandi dans un manoir, les mains dans le cambouis comme pour mieux écrire son histoire. Histoire qui se répète sans fin, qui m'a fait naître, histoire à suivre, mon héritage, ma première page, puisque nos vies sont des livres. Puisque nos vies sont des livres.
C'est-à-dire que la campagne électorale pour les présidentielles a connu un tournant avec donc une offensive autour de l'immigration et du discours, disons, sécuritaire sur l'immigration, véhiculant un certain nombre de stéréotypes qui nous étaient insupportables parce que justement le projet de la Cité nationale d'histoire d'immigration, il est de changer le regard sur l'immigration.
Gérard Noiriel est historien. Il y a une vingtaine d'années, il a publié un ouvrage qui était remarqué, qui s'appelait Le Creuset français. Là, quand on l'avait rencontré au mois de juin, il venait de publier un livre que je vous recommande, qui s'appelle Immigration, antisémitisme et racisme en France au 19e et 20e siècle. Et là, il va sortir dans les jours qui viennent un livre plus précisément sur cette affaire. À quoi sert l'identité nationale? Je vous recommande aussi un site qui s'appelle le site du comité de vigilance face aux usages publics de l'histoire, CVUH. Vous le pouvez le trouver sur internet et c'est tout à fait passionnant parce que c'est plusieurs chercheurs, historiens, démographes, etc. qui nous mettent en garde sur les manipulations de la connaissance historique. Comment on triche, comment on triche avec, Jaurès, avec Blum, avec Guy Moquet par exemple, et puis aussi avec le terme même d'identité nationale. On est donc avec Gérard Noiriel.
Alors ce projet, il me tient particulièrement à cœur, si vous voulez, parce que j'ai été l'un des tout premiers à plaider pour la mise en place d'un lieu de mémoire dédié à l'immigration. Dans mon livre qui s'appelle Le Creuset français, qui date de 1988, le premier chapitre s'appelle Non-lieu de mémoire. Et c'était donc déjà une sorte de critique implicite aussi à Pierre Nora qui avait écrit les lieux de mémoire, sans du tout voir que le tiers des gens qui habitent aujourd'hui en France étaient issus de l'immigration, pour peu qu'on remonte jusque leurs arrière-grands-parents, que la France est un des pays qui doit le plus à l'immigration au monde entier. Et paradoxalement, dans ce pays, il n'y avait aucun lieu de mémoire rappelant l'importance de l'immigration. Donc il y avait une sorte d'exclusion de cet aspect du passé de la France. Donc moi je me suis fortement engagé, on a créé une association dès cette époque-là d'historiens, dès la fin des années 80, pour promouvoir la cité. Et la gauche, disons, a été incapable, il faut bien le dire, de porter ce projet jusqu'au bout, alors qu'il nous semblait relativement naturel, eu égard au passé, que ce soit plutôt
un gouvernement de gauche qui favorise ce projet. Donc, le changement de gouvernement avec Jean-Pierre Raffarin, eh bien, le nouveau gouvernement a repris à son compte ce projet. Nous n'avions aucune raison de faire un procès d'intention au nouveau gouvernement à partir du moment où la lettre d'engagement était clairement tournée vers l'idée citoyenne de changer le regard de la majorité des Français sur l'immigration. Mais là, vous voyez, on a eu le sentiment d'une sorte de trahison, entre guillemets, puisque c'était quand même le même parti, il ne faut pas l'oublier, et même si ce n'était pas les mêmes candidats, qui reprenait à son compte ce contre quoi nous avions combattu. Donc nous avons prévenu pendant la campagne que pour nous c'était intolérable. Après l'élection présidentielle, nous avons dit, nous avons fait passer un message, comme on dit, en disant que nous ne pourrions pas supporter que ces deux termes figurent dans l'intitulé d'un ministère, ce qui nous semble extrêmement grave. C'est plus loin que la politique, ça, hein, c'est l'étatique.
Mais il faut que vous nous expliquiez ça vraiment très, très en détail. Pourquoi cette association vous choque et qu'est-ce qu'il y a là de scélérat ?
Si vous voulez, le problème de fond, nous ne faisons pas de procès d'intention à l'égard de qui que ce soit. Mais moi, il se trouve que par ailleurs, on en reparlera peut-être un peu tout à l'heure, j'ai fait une analyse précise des discours du candidat Nicolas Sarkozy. Et dans ces discours, quand vous voyez les mots immigration et identité nationale, c'est toujours associé à des représentations négatives. J'ai analysé le discours de Poitiers, j'y renvoie, il est peut-être encore sur le site de l'UMP, vous pourrez aller regarder, vous voyez que immigration, ça renvoie à clandestins, ça renvoie à moutons égorgés dans des salles de bain, aux grands frères, aux voiles islamiques, etc., etc. C'est-à-dire, tout des représentations qui correspondent à des éléments de la réalité, mais il y a aussi, évidemment, il y a toujours eu des immigrés criminels. Si vous voulez, dans les années 30 ou avant la guerre de 14, l'antisémitisme était véhiculé à partir de thèmes sur les juifs criminels, banquiers, etc., etc. C'est ça les stéréotypes, c'est qu'on prend un élément qui existe dans la réalité pour le généraliser. C'est contre ça que nous nous battons, vous comprenez ? Parce que ça n'est pas représentatif de la réalité de l'ensemble de l'immigration. Si vous voulez, si le gouvernement avait créé un ministère de l'identité nationale, à côté du ministère de la culture, du ministère de l'emploi, etc. À la limite, bon, pour nous, on aurait sans doute réagi, mais ça n'aurait pas été aussi grave que de l'intégrer dans un ministère de l'immigration. Ça veut dire qu'il y a un problème spécifique d'identité nationale par rapport à l'immigration. Et on reste dans un registre qui ne permettra pas de changer le regard sur l'immigration. Or, comme c'était notre mission, il était bien évident que, sauf à être complètement inconséquent, nous devions en tirer les leçons et démissionner.
On n'est pas polygame, on ne pratique pas l'excision sur ses filles, on n'égorge pas le mouton dans son appartement et on respecte les règles républicaines.
Très beau exemple, ça va beaucoup
ça
plus.
N'a...
Beaucoup
ça
c'est...
Ça n'a...
Ah, c'est pas...
Non,
ah
non. Non. Monsieur,
c'est honteux.
Mais même
c'est
monsieur,
honteux.
De la religion monsieur, musulmane,
mais
peut-être,
attendez,
non. Je suis d'origine
attendez,
algérienne
attendez.
Et je suis musulmane attends. Et je me sens insultée.
Alors, on va avancer un petit peu plus et voir... Justement, comment vous analysez ce que vous appelez le nationalisme soft de l'actuel président, même si c'est des analyses que vous avez faites pendant qu'il n'était que candidat.
Vous faites bien de préciser que j'ai travaillé, moi, sur les discours. J'ai travaillé sur des matériaux, parce que notre travail, si vous voulez, justement, c'est de prendre une distance. Je ne vais pas aller dire qu'il y a une cloison étanche entre le citoyen et le chercheur, ce serait pas honnête. Mais malgré tout, il y a une autonomie dans l'analyse. Et quand on regarde effectivement ces discours, on peut pointer des critères qui nous permettent de parler de nationalisme au sens classique du terme. C'est-à-dire que le nationalisme, donc, c'est une exaltation, si on prend le sens du dictionnaire, de l'identité nationale, c'est-à-dire du « nous » national, par opposition aux étrangers. Et cette opposition, « eux » et « nous », on la retrouve dans ces discours de manière tout à fait évidente et illustrée par l'exemple de l'immigration. Donc je veux dire que le deuxième élément qu'on peut pointer, je ne vais pas tous les énumérer, mais c'est l'une des références, parmi les nombreuses références historiques faites par le candidat de l'UMP, il y en a une qui me paraît alors là entièrement fondée, c'est la référence à Maurice Barrès. Maurice Barrès est donc un écrivain qui a été le chef de file du courant anti-Dreyfusard, qui affirmait lors du procès de Dreyfus qu'il était persuadé que Dreyfus était coupable parce que, en raison de sa race. Donc, si vous voulez, vous avez une dimension nationaliste antisémite. Je le précise, cette dimension antisémite n'est pas dans les propos de Nicolas Sarkozy. Mais quand on se réfère quand même aujourd'hui à Maurice Barrès comme l'un des inspirateurs de sa pensée, il faut au moins avoir le courage d'assumer cette affiliation. Barrès se définissait, lui, comme nationaliste. C'est le père fondateur du nationalisme français. Il se référait à la fois de Jeanne d'Arc et la Commune de Paris. Vous avez ces références, vous voyez, droite-gauche, la terre, la colline de Sion, le catholicisme, etc. Tous ces éléments-là qui ont été repris à un moment ou à un autre dans les discours de Nicolas Sarkozy sont effectivement empruntés au nationalisme barésien. Mais je dis que c'est un nationalisme soft parce qu'aujourd'hui, ce nationalisme n'a plus les implications qu'il a eues dans le passé. Hein. Barrès, par exemple, a été candidat et élu député en 1893 sur la base d'un programme qui était non aux étrangers, uniquement centré sur l'expulsion des étrangers. Dieu merci, on n'en est plus là aujourd'hui. Mais il y a une tradition, vous voyez. Donc, dans la définition de l'identité nationale et l'opposition à l'immigration, on retrouve une constante dans l'histoire contemporaine de la France et c'est ça qui nous paraît extrêmement inquiétant.
Nous avons des problèmes avec une partie de nos compatriotes d'origine africaine, Afrique noire ou Afrique du Nord, qui se trouvent être moins bien intégrés, ce qui est un comble, que leurs grands-parents qui ne parlaient pas français. Quand je reçois l'une des familles, d'ailleurs assez remarquable, le père du jeune décédé ne parle pas français. Et c'est le cousin qui traduit pour s'exprimer avec moi. Et le fils parle français, il est d'ailleurs français. Et il vient en costume traditionnel, pas français.
Alors, dans le bouquin, dans votre bouquin, Immigration, antisémitisme et racisme en France, discours public, humiliation privée, ce que vous nous dites, c'est que l'immigration a une histoire ancienne. Est-ce que vous pouvez définir les grandes époques de cette immigration ?
Oui, eh bien, on peut dire que l'immigration en France a toujours accompagné le développement industriel. C'est-à-dire que vous avez le début de l'immigration, la première grande vague, c'est dans les années 1860-70, au moment de du développement de l'industrie française.
Moi, je veux commencer par nous dire qu'il y a une immigration intérieure au pays.
Oui,
hein,
voilà. Alors là, évidemment, là, on entre dans la définition des mots. Moi, j'emploie le mot immigration parce que le mot immigration est entré dans le vocabulaire français sous la Troisième République par rapport à la question des étrangers. Hein. Avant, on n'utilisait pas ce mot-là. Immigration, ça veut dire, dans le vocabulaire courant, déplacement dans l'espace, mais aussi franchissement d'une frontière. Hein. C'est pour ça qu'on distingue les migrations intérieures et l'immigration. Mais autrement, oui, il y a eu, au début du 19e siècle, une migration vers Paris, vers les grandes villes, notamment des ruraux, des gens qui venaient des montagnes, des Auvergnats, etc. Et on a des témoignages qui montrent que ces gens-là vivaient déjà, au niveau de leur expérience quotidienne, des réalités qui sont celles de l'immigration d'aujourd'hui. Ils ne parlaient pas le français, ils étaient rejetés, il y avait une violence dans les quartiers, parce que c'est souvent des gens célibataire ou vivant tout seul. Donc, il y a un certain nombre de conditions qui se mettent en place, et y compris dans le discours humiliant, c'est-à-dire de rejet de la part des bourgeois, je dirais, de Paris, à l'égard de ce qu'on appelait à l'époque classe laborieuse, classe dangereuse. Ce n'était pas le vocabulaire de l'immigration, c'était le vocabulaire de classe. Et moi, je pense qu'encore aujourd'hui, il reste dans ces questions-là un soubassement de mépris pour les classes populaires. Énormément de choses qui sont dites sur l'immigration, en fait, c'est des problèmes sociaux. C'est des problèmes qui concernent souvent des gens qui sont nés en France, qui sont français, dès qu'ils vont bouger le petit doigt, on va dire qu'ils ne sont pas intégrés, hein, alors que ce sont des questions sociales.
Vous dites d'ailleurs quelque part dans votre bouquin qu'on ne demande pas à Zidane s'il se livre à des tournantes ou...
Voilà, tout à fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes riche, jeune et beau, eh bien, vous ne serez plus considéré ni comme un beurre, ni comme un immigré, etc. Donc là, on voit l'effet stigmate, vous voyez, et qui est véhiculé parfois de manière inconsciente par des gens qui, par ailleurs, ne seront pas conservateurs ou xénophobes, etc. Vous voyez, les intitulés comme ça, qui fonctionnent après comme des automatismes de pensée, c'est ça qui charrie après des représentations négatives. Et donc, il faut absolument être vigilant par rapport à cela.
Alors, il y a d'abord cette émigration de l'intérieur. Hein, vous parlez des Auvergnats, mais il y avait aussi bien les maçons de la Creuse, ceux qui ont construit Paris, les Bretons, les Savoyards, enfin, etc. Il y avait tout un tas de migrations intérieures, parce qu'après tout, il y a sans doute des analogies à faire entre l'Auvergnat du 19e siècle et le Malien d'aujourd'hui. On peut risquer ça ?
Il y a des points communs, effectivement, dans la construction des représentations. C'est-à-dire le « eux et nous », ce fameux « eux et nous ». Où ça commence, la frontière du « nous » et la frontière du E. Et c'est très intéressant, le début du 19e siècle, pour ça. Donc il y a un mépris qui est à la fois à l'égard de populations qui ne parlent pas la même langue, qui n'ont pas les mêmes usages, mais aussi un mépris qui est social, parce qu'évidemment ce sont des pauvres, des gens pauvres, où il y a, disons, une violence qui est souvent une réponse, que des gens qui n'ont pas accès au langage, qui n'ont pas accès à l'espace public, expriment à leur manière. Donc là, il y a vraiment une constante des points communs. Et j'ai insisté là-dessus parce que c'est justement au moment où se fait l'intégration de ces milieux populaires dans l'État national, avec la Troisième République, que la frontière se déplace, vous voyez ? Elle se déplace d'une frontière, on pourrait dire, intérieure entre les élites et les milieux populaires, vers une frontière nationale entre Français et étrangers. Donc la fin du 19e siècle est un moment tout à fait fondamental pour la mise en place de la modernité dans laquelle nous sommes toujours aujourd'hui par rapport au discours sur l'immigration. Puis en même temps, cette période, c'est le début de la colonisation, enfin de l'empire colonial. Donc là, on a vraiment une période extrêmement importante pour comprendre le monde dans lequel on vit encore aujourd'hui.
Selon les périodes, c'est-à-dire que quand on a, par exemple, le plein emploi, le regard est beaucoup plus conciliant. Quand on a crise, la xénophobie monte.
Tout à fait, c'est une des constantes que l'on retrouve sur la longue durée. Dans les périodes de crise, il y a un retournement et donc ces gens-là sont dénoncés comme les responsables de la crise, des difficultés sociales de la France, etc. Alors ce schéma, on le trouve à la fin du 19e siècle. La crise, c'est la crise des années 80, ce qu'on a appelé la Grande Dépression, et qui est contemporaine aussi du début du nationalisme, le boulangisme, le Barrès, dont on parlait tout à l'heure. C'est à ce moment-là qu'apparaît le nationalisme en France. On retrouve exactement le même schéma dans l'entre-deux-guerres. Les années 20, période d'afflux. La France a le plus fort taux d'immigration au monde à la fin des années 20, devant les États-Unis.
Hein ?
Parce que, eh bien, vous avez déjà un problème structurel, c'est-à-dire qu'il y avait, comment dirais-je, il y avait trop de paysans, entre guillemets, trop de petits propriétaires, trop de petits patrons, et donc les entreprises n'arrivaient pas à encourager ou à développer l'exode rural, donc il fallait aller chercher à l'étranger la main-d'œuvre qu'on ne trouvait pas sur place, si vous voulez. Donc ça, c'est la première raison structurelle qui a duré jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Les raisons plus conjoncturelles, c'est le déficit démographique.
Avec la guerre de 14.
Avec la guerre de 14, qui avait déjà commencé un peu avant, mais qui a été considérablement aggravée par la guerre. Les Français ne faisaient plus assez d'enfants. Et il y a eu, évidemment, plus d'un million 200 000 morts pendant la guerre. Donc, il a fallu, pour la reconstruction du pays, faire appel massivement à l'immigration. Et dans les années 30, on retrouve ce schéma. C'est-à-dire que là, la crise économique se développe, il y a du chômage important, et donc on accuse les étrangers de prendre le travail des Français, et ça va nourrir les mouvements d'extrême droite qui déboucheront sur Vichy.
Mais auparavant, il y a l'épisode du 6 février 34 sur lequel vous travaillez. Là, il y a vraiment un risque fasciste, là, réellement, à ce moment-là, en France.
Voilà, et aggravé par l'antisémitisme, qui est une composante très importante du nationalisme français, mais qui ne sévit pas dans les mêmes groupes sociaux. C'est-à-dire, je dirais, la xénophobie, la haine de l'étranger, on la trouve plutôt dans les classes populaires. Pas trop à l'époque, parce que le Parti communiste, la gauche est présente et a un discours social, mais on la trouve chez les petits commerçants, chez les artisans ou chez les déclassés. Mais l'antisémitisme, c'est surtout dans les classes les plus aisées. Chez vos avocats, chez les médecins, dans les classes supérieures. Donc on a la conjonction de ces deux phénomènes qui débouchent effectivement autour de cet enjeu du 6 février 34 où la République, disons, vacille sous le poids des ligues et des factions d'extrême droite.
Alors ensuite, Deuxième Guerre mondiale, là on a un double mouvement décolonisation, enfin guerre de décolonisation, conflit, donc d'où racisme et xénophobie, mais en même temps, on a une immigration très importante en France, immigration qui vient du Maghreb.
On retrouve, alors c'est le troisième niveau de ce que j'ai expliqué, c'est-à-dire la même logique qu'antérieurement, les Trente Glorieuses, comme on dit, donc formidable développement de l'activité, insuffisance de la main-d'œuvre mobilisable dans les entreprises, donc recours massif de nouveau à l'immigration. Dans un premier temps, entre 45, disons, et 53-54, on va surtout chercher de la main-d'œuvre d'Algérie, c'est-à-dire c'est une immigration coloniale. Et puis après, il y a la guerre d'Algérie, là, qui marque une rupture. Et après donc la guerre d'Algérie, eh bien, il y a un recours à l'immigration, mais il ne faut pas surestimer non plus la part de l'immigration en provenance du Maghreb. En fait, il y a deux pôles qui on voit encore aujourd'hui dans les statistiques. Le pôle, j'appelle ibérique, espagnol, portugais, et le pôle Afrique du Nord.
D'après ce qu'on nous annonce, ça va dans un bon sens. Faut pas prévoir à l'avance avant d'avoir la réponse. avant d'avoir la réponse au sujet de la résidence.
Rasrachken henni manik, illa warren dit motik, raflon morren te mchantik, colasse de les conférences. Colasse de les conférences pour étudier tous les sens.
Bien dommage, le racisme et le chômage. Heureusement qu'il y a des sages, c'est le prestige de la France. C'est le prestige de la France, c'est la raison d'espérance.
En elle, le khadma wa'aran, l'immigré t'y se rappelle. Hier, n'a soussoum el khissen, au Karnas, il y a de la chance. Au Karnas, il y a de la chance, mais c'est de la résidence.
Travail quand il est dur, c'est pour les migrés bien sûr. Avec la conscience pure, dévouement et des souffrances. Dévouement et des souffrances, ça mérite la récompense.
Il faut subir les conséquences.
Il faut subir les conséquences, y aura plus de ruminance. Mesdemoiselles, messieurs, si je dois vous dire adieu, sachez bien que mes aïeux ont combattu pour la France. Ont combattu pour la France bien avant la résidence. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si nous devons vous dire adieu, sachez bien que nos aïeux ont combattu pour la France bien avant la résidence.
À quoi sert l'identité nationale ? C'est le titre d'un livre qui va apparaître prochainement aux éditions Agon, signé de Gérard Noiriel, avec qui nous sommes, historien, et qui, avec d'autres chercheurs, d'autres historiens, lors de la création du ministère de l'immigration et de l'identité nationale le 18 mai dernier, ont démissionné de leur poste dans la création de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration. Pourtant, ils y étaient attachés depuis longtemps. D'ailleurs, ils ont continué d'accompagner cette création et cette ouverture de cette Cité nationale de l'histoire de l'immigration aujourd'hui même, qui, vous le savez, se fait avec une certaine discrétion. Il n'y a pas beaucoup de tambours et quand même assez peu de trompettes à cause de ce conflit entre ces historiens, on peut dire ces pères, si on veut, de cette Cité nationale de l'immigration et ce ministère de l'identité nationale. Pour les chercheurs, dont Noiriel, enfin, pour un certain nombre de chercheurs, pas tous bien évidemment, dont Gérard Noiriel, l'identité nationale, c'est donner, c'est encourager, on peut dire, conforter des préjugés négatifs à l'égard des immigrés, et il souligne que, je le disais en commençant, c'est Jean-Marie Le Pen qui a le plus, dans l'espace public, utilisé l'expression identité nationale. Donc il y a quelque chose là de préoccupant, sachant par ailleurs, je le disais en commençant, que le candidat Nicolas Sarkozy a voulu récupérer, enfin siphonner, oui, c'est le terme, l'électorat du Front National, avec toutes les concessions et tous les gages nécessaires, on l'entendait dans ses différentes interventions. Donc on est avec Gérard Noiriel autour de son bouquin Immigration, antisémitisme et racisme en France, 19e et 20e siècle, qui est sorti au printemps dernier. Et Gérard Noiriel fait la différence entre racisme et antisémitisme dans ce livre. Parce que vous distinguez, hein, immigration, antisémitisme et racisme. Vous mettez l'antisémitisme à part, il y a tout un chapitre important sur l'affaire Dreyfus. Évidemment, vous ne manquez pas de parler de la naissance, du rôle de l'intellectuel avec Zola, puisque vous êtes un intellectuel, donc la comparaison se fait toute seule. Et aussi de la droite et de la gauche, vous dites que c'est là l'affaire Dreyfus va fonder les notions de droite et de gauche, et vous distinguez le racisme et l'antisémitisme. Aujourd'hui, ça fait peut-être pas polémique, mais ça fait problème, cette séparation.
Je dirais justement, c'est parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont tendance à distinguer, voire à opposer les deux, que j'ai mis ça dans mon titre pour montrer que justement, historiquement, c'était étroitement lié. Le combat contre l'antisémitisme et le combat contre le racisme, au départ, ont été portés par les mêmes personnes. Hein. Mais aujourd'hui, dans le contexte actuel, sur fond de guerre, vous savez, israélo-arabe, enfin, problème palestinien, etc., vous avez des groupes qui vont opposer antisémitisme et racisme. Donc moi, je suis de ceux, hein, je précise, qui plaident pour le maintien de cette unité d'action contre toutes les formes d'intolérance. Mais j'ai distingué les deux parce que les mots existent dans leurs différences. Mais au départ, historiquement, le terme antisémitisme, il apparaît en France à la fin du 19e siècle. Le mot racisme, il se diffuse dans le vocabulaire politique dans les années 30. Mais au départ, racisme, c'est un équivalent d'antisémitisme. Ceux qui ont porté le combat contre le racisme, c'est la LICA, c'est Bernard Lecache, c'est des gens qui combattaient l'antisémitisme. Ils disaient l'antisémitisme, c'est du racisme. Et c'est sur ce premier niveau que s'est greffé après la lutte anticolonialiste qui, elle, a véhiculé et répandu la notion de racisme. Et une association comme le MRAP a joué un rôle fondamental. Et les militants du MRAP, au départ, c'est des militants de la résistance qui luttaient contre l'antisémitisme, contre les lois de Vichy, les nazis, etc., et qui ont élargi leur lutte autour de la question du racisme, étant investis dans un combat très fort contre la colonisation. Donc voilà, la distinction, elle est analytique, mais elle n'est pas du tout, je dirais, pour ma part, au contraire, c'est même l'inverse. Je pense que c'est deux dimensions d'un même problème. Et ce que je montre dans le livre, c'est que dans le cas français, racisme et antisémitisme, c'est-à-dire en haut la haine des juifs et la haine des étrangers ou des gens issus de l'empire colonial, etc., s'alimentent aux mêmes sources. Voilà ma thèse. C'est une argumentation, un discours politique qui vise à opposer les catégories françaises aux autres.
En colère, évidemment. Qui ne laisserait pas, n'est-ce pas ? On ne peut pas être raciste par opportunisme. On n'est pas raciste pour gagner des élections, n'est-ce pas ? Il faut une sincérité, n'est-ce pas ? Une conviction, une haine, une peur profonde de l'étranger. Voyez-vous, monsieur, ces gens salissent le racisme en le banalisant.
Ah, c'est beau ce que vous dites.
Il y a une démagogie. Les racistes sont à moi.
Mais pourquoi ça marche, la xénophobie ? Pourquoi est-ce que par moments ça marche et par d'autres moments... ça marche pas, enfin, du moins c'est un problème secondaire. Okay. Je pense par exemple à vous l'évoquez, au début des années 70, on a une chanson de Moustaki qui est avec Ma gueule de Métèque. Vous parlez d'ailleurs vous racontez l'histoire de ces deux mots, hein, racaille et Métèque. Vous avez un chapitre qui s'intitule Racaille et Métèque. Mais c'est une époque où, bon, ma foi, le Métèque, on plaisante avec ça, avec distance, avec une certaine. Voilà. Et à l'époque, Jean-Marie Le Pen crée son Front National, c'est au début des années 70, et pendant des années, il a aucun succès. Et ça va marcher au début des années 80. Hein. Voilà, oui. Qu'est-ce qui va faire que soudain, Le Pen, qui dit toujours la même chose depuis des années, ça ne marche pas, qu'est-ce qui fait qu'un beau jour, ça marche ?
Dans ce livre, je distingue très très précisément, et pour moi c'est tout à fait essentiel, deux niveaux. C'est-à-dire le niveau des propos, des préjugés que tout un chacun peut peut-être avoir dans sa tête, qui est lors du mépris social, globalement, dans un sens large, et de sa traduction dans discours public. J'estime que nous qui sommes des privilégiés, qui appartenons à la petite... Vous voyez, je dis nous pour m'inclure hein, aussi, dans la petite élite qui a la possibilité de parler en public, a une responsabilité particulière dans la construction des discours. Si vous voulez, ce qui s'est passé au début des années 80, c'est qu'il y a une digue qui a été rompue. Parce que depuis la Deuxième Guerre mondiale, en raison du nazisme, en raison de Vichy, le nombre de personnes quand même qui en France avaient été impliquées dans ce genre de choses, eh bien, il y avait une sorte, j'allais dire, surtout après la guerre d'Algérie, disons, parce que la guerre d'Algérie a été un moment...
De digue morale.
De digue morale, où, si vous voulez, en plus, il y avait la prospérité économique, etc. Il y avait l'ouverture internationale, il y avait toute une série, les gens s'ouvraient, la musique, le cinéma, enfin, il y avait aussi un optimisme, peut-être, que de universaliste, etc. Mais je pense qu'il y avait aussi... que ce soit de droite ou de gauche, une sorte de morale républicaine qui faisait qu'on n'allait pas, encourager ou véhiculer toute une série de termes ou de représentations qui stigmatisaient les étrangers. Donc, ça restait confiné à des petits groupes, minutes, par exemple, ou les groupes, les l'OAS, ou des groupes d'extrême droite, mais ça ne dépassait pas parce qu'on leur donnait pas de crédit. Ce qui s'est passé, effectivement, au début des années 80, et ça a été ça, la grande réussite, au fond, de Le Pen, ça a été que, avec, je pense, le triomphe, j'essaie de donner quelques éléments là-dessus, mais de l'information spectacle aussi, avec le fait que, aujourd'hui, pour exister sur la scène médiatique, faut faire des petites phrases qui vont provoquer, que tout le monde reprendra en disant, bon, on n'est pas d'accord, mais on les diffuse malgré tout. Hein. Et donc, toute cette logique-là, qui devrait encore être analysée, parce qu'on manque de travaux quand même précis là-dessus, ont fait que finalement, dans l'opinion, les petits secteurs qui avaient toujours, quelle que soit l'époque qu'on prend, quand on regarde des travaux qui ont été faits, on s'aperçoit qu'il y a dans la population des gens qui vont dire « ces salauds d'étrangers ». Alors, les groupes varient. À un moment, c'est les Belges, ça peut être les Italiens, les Juifs polonais, les Espagnols, etc. Bon, mais quel crédit on donne à ça ? Vous voyez, est-ce qu'on porte ça politiquement ou est-ce qu'on met ça à distance, hein ? Est-ce que le courage politique, le courage des élites, ce n'est pas de justement, même si c'est rentable électoralement, de se dire on ne va pas utiliser ça parce qu'on ne sait pas où ça peut nous mener. Voilà, je pense que dans les années 80, pour moi c'est une période fondamentale, il y a eu une rupture de cette espèce de morale républicaine et en même temps les gens ont découvert peut-être, ah ben tiens c'est pas si dangereux que ça. Puisqu'effectivement, le discours xénophobe porté par le Front National, il n'a pas entraîné les mêmes conséquences que ça avait entraîné dans les années 30. Donc oui, il y a une déconnexion aussi du discours et de la pratique. Et donc, je pense que ça a banalisé aussi ce genre de référence. Mais alors, on pourrait se dire, bon, après tout, voilà, il y a ces images-là ou ces propos négatifs, mais ça ne change rien. Si, parce qu'on voit les effets sur les personnes. Tous les travaux des sociologues qui ont été faits sur ces jeunes, notamment issus de l'immigration, montrent qu'ils ressentent quand même ce discours constamment négatif comme des humiliations. Et quand on prétend par ailleurs les intégrer et qu'on tient des discours comme ça, qu'ils les présentent toujours dans des situations négatives, eh bien on est en contradiction avec soi-même.
Vous n'êtes pas un historien de l'immédiat, mais enfin même si vous vous mouillez là quand même sérieusement, quel lien vous faites entre cette stigmatisation et ces émeutes de 2005 ? On a dit elles ne veulent rien dire parce que ces gens ne parlent pas. Vous évoquez Eric Hobsbawm, l'historien britannique qui parle des primitifs de la révolte.
Oui, j'ai fait un rapprochement entre ces émeutes de novembre 2005 et les formes de violence populaire des années 1830-1840, c'est-à-dire plus de 150 ans avant. Et j'ai repris des propos qui étaient dans les journaux ouvriers. Les journaux ouvriers s'en étaient pris à Victor Hugo, parce que quand Victor Hugo a été élu à l'Académie française, il avait traité le peuple de Paris de populace. Populace, c'était un terme à l'époque très péjoratif. Et Vinçart, qui était menuisier, donc a écrit en disant « Nous ne supportons pas ces stigmatisations, ces mots qui nous blessent, qui nous atteignent, etc. » Et Victor Hugo avait été ébranlé par cet échange, par le fait, et Louis Chevalier, qui a travaillé là-dessus, montre que le sens même du mot « misérable » dans les romans de Victor Hugo a changé. « Misérable », c'était le langage sécuritaire au départ, ça voulait dire « bandit », »,« assassin », etc. Et c'est devenu plutôt, vous voyez, « misérable », les pauvres gens, quoi. Donc, il y a ce basculement, et ce que j'ai expliqué, c'est que finalement, eh bien, moi, je trouvais que c'était une bonne chose, ces émeutes de novembre, parce que c'était une forme d'expression qui est adapté au monde dans lequel nous vivons et où ces jeunes, eh bien, je ne dis pas que c'était bien qu'ils brûlent les lieux où ils habitent, bien évidemment, ça c'est triste, mais enfin que je dirais que le pire dans une société, c'est que des formes de souffrance ne puissent pas être exprimées publiquement. Et dans ce mouvement-là, eh bien, effectivement, il y a une expression collective d'un rejet de ce terme racaille qui leur avait été appliqué. Donc on retrouve, vous voyez, sur la longue durée de l'histoire, ces espèces de réactions entre ceux qui prononcent des discours publics sans savoir souvent les effets que ça va avoir, et ceux qui les subissent et qui les ressentent comme des atteintes à leur dignité.
Voilà, merci à Gérard Noiriel. À lire donc l'immigration, immigration, antisémitisme et racisme en France chez Fayard. Et puis dans quelques jours, le 26 octobre, paraîtra chez Agone, aux éditions Agone, À quoi sert l'identité nationale de Gérard Noiriel. Et puis, on vous signale également la quatrième édition du festival Origine Contrôlée, qui sera à Toulouse du 12 au 19 octobre, avec des groupes, dont La Rumeur, des projections de films, pièces de théâtre, etc. Et il y a un album, Origine Contrôlée, dont vous avez entendu un extrait au cours de cette émission. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis. Vous pouvez la réécouter également sur la-bas.org, où vous pouvez réécouter l'émission d'hier avec François Ruffin, ainsi que le texte écrit par François Ruffin sur l'affaire EA2S et sur l'affaire Lagardère, Airbus, etc. Vous pouvez prendre votre temps pour lire ce texte à oreille reposée. À la technique aujourd'hui, Julien Chabassu et Fabrice Chabani. C'est Yann Chouquet et Koyen Guyenne qui ont réalisé cette émission modeste et géniale, il faut bien le dire, assistée de Charlotte Perry, et c'est Christophe Imbert qui attend vos messages dans le répondeur de là-bas si j'y suis, au répondeur de là-bas si j'y suis, au 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37.